Aujourd'hui, les taux sont remontés très fort. Donc les taux directeurs sont passés de moins 0,50 à... Donc, aujourd'hui, à l'heure où on tourne, on est à 3,5%. À la BCE, dans deux jours, on sera à 3,75%. Je peux déjà l'annoncer aujourd'hui, je peux déjà me positionner dessus. C'est le but, hein. Le but de rendre l'argent plus cher, c'est de limiter la consommation, d'inciter les gens à épargner plutôt qu'à consommer ou qu'à emprunter, et donc de limiter la hausse des prix. Hein, c'est le schéma classique d'une banque centrale pour essayer de limiter, faire baisser l'inflation. Mais de toute façon, les poches obligataires, normalement, j'aime bien dire normalement parce que l'année dernière c'était une année qui n'était pas normale, diversifie votre allocation. Bon, clairement, c'est de l'ETF. Je vais pas faire du stock picking action. Déjà, c'est pas mon truc. J'ai une vraie conviction que les statistiques qui sont avec moi. Hein. Enfin, si on prend aux États-Unis, il y a 85% sur 5 ans, 85% des fonds ne battent pas leur indice. La France n'est pas triple A. Les États-Unis sont pas pure triple A. Donc il y a vraiment peu de pays. Le Luxembourg est triple A.
Bonjour à tous. Bienvenue dans un nouveau Finare Talk. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très chaud, la hausse des taux. Et pour ça, j'ai invité Thomas Veit, gérant obligataire chez Spirit AM. C'est un spécialiste des taux, c'est un spécialiste des obligations. Ils gèrent plus d'1,6 milliard, ils sont basés à Luxembourg. On va pouvoir aller très loin dans le sujet pour vous donner les clés pour comprendre cette classe d'actifs. Salut Thomas.
Salut Mounir.
Comment ça va?
Impeccable, merci de m'avoir invité.
Avec plaisir. Je me suis dit, le sujet des obligations, c'est un sujet qui n'était pas trop à la mode en fait ces dernières années, et là il revient en force. Avant de rentrer dans les détails et d'expliquer pourquoi c'est devenu le sujet du moment, déjà, c'est quoi une obligation?
Alors, une obligation, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez méconnu du grand public ou souvent délaissé, hein, de part aussi les grands journaux financiers ou les grands médias financiers qui parlent que des actions. Aussi, par la raison que tu as invoquée, hein, ça faisait 7-8 ans que les taux étaient négatifs en zone euro. Tout le monde s'était délaissé de cette classe d'actifs. Aujourd'hui, elle revient sur le devant de la scène avec la remontée des taux, l'inflation et toutes ces thématiques qui sont prépondérantes dans les grands médias. Alors, une obligation, simplement, c'est quoi? C'est un titre de dette, contrairement à une action qui est un titre de propriété d'une entreprise. Il y a différents types d'obligations, bien évidemment, mais partons du classique. Hein, une obligation, c'est un instrument financier de dette émise par une société ou un État, émise à un prix, souvent 100, remboursé à un prix, souvent 100 aussi, avec une maturité et un coupon. Le coupon, c'est le taux d'intérêt que va vous donner chaque année l'émetteur, hein, donc soit l'État, soit l'entreprise, et l'obligation aura une durée de vie de 6 mois à l'infini.
30 ans.
30, même plus, hein, 50 ans. L'État français, par exemple, a du 50 ans. L'État allemand aussi a du 50 ans. Donc ça peut être très long, voire même certaines obligations, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui sont perpétuelles, ouais, sans date de maturité. Mais bon, là, on rentre déjà sur une autre sous-classe d'actifs obligataires. Mais une obligation classique est mise à un prix, remboursée à un prix, avec une maturité et un coupon qui est fixe. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, ce qui est souvent oublié, c'est que le prix de l'obligation, il évolue en cours de route. Ce n'est pas quelque chose qui est figé, qui vaut tout le temps 100 avec un coupon qui ne bouge pas. Ça, c'est vrai, le coupon ne bouge pas, il est fixe. Il peut être aussi variable, mais souvent, il est fixe.
Il est fixe en taux ou en montant?
En taux. Okay. En taux. Prenons un exemple, hein, ça sera toujours plus simple. Hein. Allez, on prend l'exemple d'une obligation totale qui émet une obligation à 5 ans, donc maturité 2028, avec un coupon de 5%. Chaque année, Total va vous payer 5% de coupon et à maturité va vous rendre votre capital. Donc, si vous investissez 100 000 euros sur cette obligation-là, vous donnez 100 000 euros à Total, à la fin, ils vous rendent 100 000 euros et ils vous donnent 5 000 euros chaque année. Par contre, en cours de route, le prix de cette obligation, il va varier.
Et comment il va varier? C'est quoi la mécanique?
Alors la mécanique, elle est assez complexe. Hein. C'est pour ça aussi que souvent, les gens s'y perdent. Globalement, il y a deux facteurs qui font bouger le prix d'une obligation. Il y a le facteur taux d'intérêt. Donc quand les taux d'intérêt montent, le prix d'une obligation baisse. Ça, on va peut-être pouvoir passer un peu de temps pour le démontrer, pour que tout le monde comprenne bien le fonctionnement. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect prime de risque. Donc là, on a parlé de l'obligation totale. Il faut toujours comparer le rendement d'une obligation d'entreprise ou à risque par rapport au rendement d'une obligation sans risque. Donc l'obligation sans risque de la zone euro, c'est l'obligation allemande. L'obligation sans risque de la zone de dollars, c'est l'obligation d'État américaine. Restons en Europe. Donc le rendement de l'obligation totale, par exemple de 5% pour l'exemple, il faut le comparer au rendement de l'obligation allemande. Donc si on prend sur la même maturité, prenons à 10 ans pour le coup, c'est des points que tout le monde connaît. Le rendement du 10 ans allemand aujourd'hui est à 2,5%. Si le rendement de l'obligation totale à 10 ans est à 3,5%, à Total aura une prime de risque de 1%. C'est-à-dire que les investisseurs estiment que le risque total, c'est 1% de rendement en plus que l'État allemand. Donc les taux d'intérêt fluctuent en fonction des décisions des banques centrales. Je pense qu'on y reviendra durant cette interview. Et en plus de ça, le prix de l'obligation varie en fonction de cette prime de risque qui va fluctuer aussi tous les jours sur le marché.
Et qui fluctue en fonction de ce qui se passe en fait dans l'actualité de l'entreprise ou de l'État, j'imagine ?
Alors, pas que. Il y a le côté micro, effectivement, hein, donc vraiment propre, intrinsèque au sous-jacent, à l'émetteur, donc par exemple à Total ou à l'État allemand. Mais il y a aussi l'environnement macro. Si on vient à rentrer en récession, si les données macroéconomiques commencent à se tendre un peu plus, les investisseurs vont donner une prime de risque plus importante sur l'ensemble d'une sous-classe d'actifs ou d'une catégorie de risque d'obligation.
Petite parenthèse pour vous parler de Finari, l'app que j'ai développée. C'est une app qui vous permet de suivre votre patrimoine de façon hyper sécurisée et d'avoir tout au même endroit votre PEA, votre assurance vie, vos cryptos, votre immobilier, etc. Le business model de Finari, c'est quoi ? C'est un abonnement Finari Plus. Avec Finari Plus, vous débloquez toutes nos fonctionnalités les plus poussées. Predict, donc un simulateur pour savoir quand est-ce que vous allez être indépendant financièrement. Notre scanner de frais qui débusque les frais cachés dans vos assurances vie, dans vos comptes titres dont personne ne vous parlait. En moyenne, on fait économiser des dizaines de milliers d'euros à nos utilisateurs. On a aussi les actifs les plus populaires, donc vous allez découvrir dans quels investissements la communauté Finari investit. Bref, plein de choses, tout ça c'est Finari Plus. Et pour cette vidéo, je vous offre 20% avec le code FinariTalk23. Retour au talk.
Et d'ailleurs, le risque, on a souvent entendu, notamment en 2 minutes, entendu parler des agences de notation, les fameux Moody's, et qui donnaient des notes. Est-ce que c'est un sujet aussi qui est important dans l'obligataire, la note qu'on donne à une obligation ?
Ouais, clairement. Donc Moody's, S&P et Fitch, les trois grandes agences de notation. Donc les notations qui vont de triple A au défaut.
Donc triple A, ce serait l'État allemand, c'est à triple A.
L'État allemand à triple A. Il y a 7 ou 8 pays, j'ai peur de dire une bêtise, mais de mémoire, 7 ou 8 pays qui sont encore triple A.
La France est triple A ?
La France n'est pas triple A. La France n'est pas triple A. Les États-Unis ne sont pas pure triple A. Donc il y a vraiment peu de pays. Le Luxembourg est triple A, mais les pays scandinaves, il y en a quelques-uns qui sont triple A. Mais voilà, là on est dans l'excellence de la notation. Il y a une notation intermédiaire qui est le triple B moins. Donc chaque notation, hein, triple A, double A, simple A, triple B, double B, simple B. Et après, on rentre vraiment dans les notations beaucoup plus compliquées. Chaque notation se décline en trois sous-notations. Plus, neutre et moins, donc double A plus, double A, double A moins. Donc vous avez vraiment un panel de notation assez important. Et de triple A jusqu'à triple B moins, on parle de notation investment grade, donc les sociétés ou les états les plus solides. Et en dessous de triple B moins, donc à partir de double B plus jusqu'au défaut, le high yield.
Donc le high yield, c'est là où la prime de risque, j'imagine, est la plus importante.
Exactement.
Il faut rémunérer ce risque.
C'est ça. Plus vous descendez dans les notations, plus le rendement à espérer est important, plus le risque est important aussi.
Et du coup, là, sur les dernières années, ou sur la dernière année, qu'est-ce qui s'est passé dans le marché des taux et pourquoi aujourd'hui on peut de nouveau faire des rendements intéressants sur les obligations ?
Alors, comme je le disais un petit peu dans l'introduction, hein, on sort depuis 2014 d'une période de taux négatifs en zone euro. Hein, on était sur des taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne qui étaient à moins 0,50. Donc même avec des primes de risque, donc ce qu'on appelle des spreads de crédit dans le jargon. Je vais utiliser souvent ce mot-là, donc je l'introduis ici. Donc des spreads de crédit, le rendement supérieur par rapport au taux sans risque sur les obligations d'entreprise. Donc ces fameux spreads de crédit, sur l'investment grade, en moyenne, ils sont de 100 points de base. C'est la moyenne historique. Actuellement, on est dans la moyenne aussi. Hein. Donc on n'est pas cher, mais on n'est pas bon marché non plus sur la catégorie investment grade. Donc avec des taux directeurs à moins 0,50 de la Banque centrale et des primes de risque autour de 100 points de base, on était sur des rendements positifs de 0,50. C'était quelque chose qui attirait peu de gens, en fait. Hein. Bien qu'il y ait des manières différentes de gérer le marché obligataire, on en reviendra quand on parlera un petit peu des stratégies, mais pour du simple buy and hold, donc ce qui est la gestion classique obligataire, il y a moyen de faire beaucoup mieux que ça, mais acheter une obligation, la tenir à maturité et juste engranger son rendement, ça n'avait plus de sens. Hein. Acheter des obligations et détenir un rendement à 0,50% sur un risque investment grade, personne ne voulait faire ça. Aujourd'hui, les taux sont remontés très fort. Donc, les taux directeurs sont passés de moins 0,50 à... Donc, aujourd'hui, à l'heure où on tourne, on est à 3,5%. La BCE, dans deux jours, on sera à 3,75%. Je peux déjà l'annoncer aujourd'hui. Je peux déjà me positionner dessus. J'ai pas d'insight, mais c'est juste ma vision. Et je pense que c'est la vision du marché actuel. Donc, on sera à 3,75 dans deux jours.
Donc, c'est une hausse hyper brutale. En
400 points de base, 4%. 4% aux États-Unis, 5% de hausse sur les taux directeurs. Donc, quand vous rajoutez à ça encore les primes de risque sur le corporate investment grade et à yield, encore plus, hein, les primes de risque à yield, elles sont autour de 400 points de base actuellement, 4%.
Point de base, c'est
100 points de base égale 1%.
Okay.
Donc 400 points de base, 4% de prime de risque sur le high yield actuellement, avec des taux directeurs qui sont à 3,5%. Vous voyez que sur le high yield, vous êtes sur des rendements de 7,5%, voire 8%. Vous prenez aussi un risque qui est supérieur. Mais déjà, sur de la bonne qualité crédit, investment grade, on a des rendements aujourd'hui autour de 5%. Donc, ça rattire beaucoup d'investisseurs.
Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Les taux ont augmenté, donc les prix des obligations ont baissé. Donc c'est quoi la réaction du marché? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour un investisseur obligataire qui était très exposé à la classe d'actifs? Ou est-ce qu'il fallait plutôt rentrer courant de l'année dernière? Est-ce qu'il fallait plutôt déjà être investi avant que ça monte?
Il fallait pas forcément être investi pendant que ça monte, ou alors être couvert. Donc un point qui est important, je pense, à aborder maintenant, c'est l'aspect de duration.
Ouais.
La duration d'une obligation, c'est quoi? C'est la sensibilité à un mouvement de taux d'intérêt. Je vous donne un exemple encore. On va garder le même exemple tout le long de l'interview, ça sera le plus simple. Donc cette fameuse obligation totale à 5 ans, elle a une duration d'environ 4,5. Donc ça veut dire que si les taux d'intérêt montent de 1%, le prix de l'obligation totale va baisser de 4,5%. Je simplifie pour les puristes, il y a l'aspect convexité, mais je pense qu'on en parlera dans un prochain épisode. Mais rien qu'avec l'aspect duration, on arrive à faire une bonne estimation de l'évolution du prix. C'est un marché qui est très mathématique, hein, contrairement au marché actions où il y a beaucoup plus d'aléas. Le marché obligataire est très, très mathématique. On arrive, en fonction de ces prévisions d'évolution des taux d'intérêt et des primes de risque, à faire des vraies projections sur les obligations. Donc pour rester sur l'exemple, 1% de hausse de taux d'intérêt, c'est 4,5% de baisse sur l'obligation totale. On voit qu'on a eu quasiment 4% de hausse de taux, donc je vous laisse faire le calcul, ça fait plus de 16% de baisse sur le prix de cette obligation. Donc si vous la déteniez il y a un an, vous aviez une moins-value de 16%.
Parce que ça s'échange, l'obligation. Là, aujourd'hui, moi, si je la détiens, je peux la vendre sur le marché.
Effectivement, hein, comme je disais, ça vaut 100 au départ, ça vaut 100 à l'arrivée, mais ça fluctue en cours de route. Donc cette obligation totale, si elle avait été émise il y a un an à 100, aujourd'hui, elle vaudrait 84, pour l'exemple, hein, une baisse de 16%. Donc si vous la revendiez aujourd'hui, c'est moins 16%, donc revendre à 84, vous auriez quand même touché le coupon, hein, le coupon qui lui est garanti et ne bouge pas.
Sauf en cas de défaut
de l'entreprise, bien évidemment, hein, toujours. Hein. Mais hors cas de défaut de l'entreprise, vous touchez votre coupon, vous prenez votre moins-value si vous sortez et vous actez votre moins-value. Si vous la gardez jusqu'à maturité, le prix va converger de nouveau vers 100. Mais cette obligation totale, si elle avait été émise il y a un an, elle n'aurait pas été émise avec un coupon de 5%. Hein. Comme je vous l'ai dit, les taux d'intérêt il y a un an sur Total, on était autour de 0,5%. Vous auriez eu un coupon de 0,5%, donc vous aurez fait un rendement de 0,5% sur la période. Donc là, vous prenez moins 16, alors votre rendement actuellement, il est de 5%, et donc ce 5% de rendement aujourd'hui, c'est pour rattraper,
ouais,
pour revenir jusqu'au 0,5% que vous aviez à la base. Il n'y a pas de secret. Donc avoir l'obligation il y a un an, c'était la mauvaise idée, sauf qu'il y a des stratégies, et c'est là que le marché obligataire est un petit peu différent aussi du marché action, où on peut se dire qu'une stratégie ETF, buy and hold sur le marché action, sur la durée, fonctionnera. Il y a toujours les points d'entrée à travailler, mais si vous avez un horizon d'investissement hyper long, acheter un ETF S&P, acheter un ETF Eurostox 50 et le tenir sur 20 ans, vous allez gagner de l'argent. Sur le marché obligataire, c'est plus compliqué. Il faut gérer, à mon sens, beaucoup plus activement cet aspect de duration, parce que le taux d'intérêt évolue beaucoup. Ils vont continuer à évoluer, hein. L'inflation commence vraiment à redescendre, mais toujours sur des niveaux élevés. On pourrait envisager aussi à un moment donné un rebond de l'inflation et des taux qui repartiraient à un moment donné encore à la hausse. Donc il faut vraiment gérer cet aspect duration. Et par exemple, l'année dernière, dans les portefeuilles, on avait complètement couvert contre ce facteur de duration. Donc il y a des instruments sur le marché aussi, donc, même des ETF. Hein.
C'est quoi, on achète une protection, voilà. Du hedging en fait.
C'est du hedging, on achète une protection contre la hausse des taux.
Et ça, tu l'achètes à qui
Alors, il y a plusieurs moyens de faire, pour arriver sur le marché des futurs par exemple, ou tout simplement avec des ETF.
Il y a des produits dérivés
okay. Ou même des ETF, hein, qui le font directement, qui détiennent des dérivés, mais qui le font au travers d'un ETF.
Okay.
L'IXOR le fait, par exemple, qui short, par exemple, le Bund, donc l'emprunt d'État allemand. Donc au lieu d'être, quand vous êtes long, vous achetez, vous avez le coupon, vous êtes remboursé à maturité. Quand vous êtes short, c'est l'inverse, hein, vous pariez sur une hausse des taux. Et c'est là que l'aspect de duration est extrêmement important. Si vous avez un portefeuille d'obligations de duration 4-5 ans, pas couvert, voilà l'effet, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, moins 16%, c'est ce que le marché a fait globalement, moins 16% l'année dernière.
Donc, mauvaise année pour...
année historiquement affreuse, c'est la pire de tous les temps.
C'est la pire année de tous les temps.
Pire année de tous les temps sur le marché obligataire l'année dernière. Passer de 0 à 4%, 3,5% de taux d'intérêt sur un an.
C'est un massacre, en fait.
C'est un massacre. C'est un massacre dans le sens où il y a déjà eu des fortes hausses de taux comme ça, mais sur des niveaux de taux plus importants. Et c'est complètement différent. Quand vous avez des taux d'intérêt à 5% qui passent à 8%, vous avez quand même ce rendement de 5%. Donc si vous détenez votre obligation pendant un an, je caricature, mais c'est pas loin d'être la vérité, vous avez déjà 5% sur un an. Si le prix, si les taux d'intérêt montent de 3%, le prix de votre obligation va baisser, mais vous avez quand même ces 5% de part à le rendement. Il y a un an, les taux étaient à zéro. Donc, vous avez zéro rendement et vous prenez toute la baisse. Il n'y a rien. Il n'y a aucun coussin.
Ouais.
Aujourd'hui, on commence à avoir du coussin. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Même si les taux continuent légèrement à monter, on a des rendements qui sont proches de 5% qui vont quand même nous donner un certain coussin contre la hausse des taux. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui.
Et avant de rentrer dans le détail des stratégies, tu disais que tu voyais une hausse de la BCE encore de 25 points de base dans deux jours. Là, qu'est-ce que tu vois comme scénario sur l'année à venir ?
La hausse des taux de 25 points de base dans deux jours, elle est entièrement pricée par le marché. La question qu'on devra se poser et là où on devra être attentif dans deux jours, c'est le discours de la Banque Centrale Européenne à l'heure où l'inflation commence vraiment quand même à décroître. Elle est toujours largement au-dessus des targets. Hein. Je rappelle, le target, donc l'objectif d'inflation de la Banque Centrale Européenne, c'est 2%. On est encore à 5,5% sur l'inflation et l'inflation core. L'inflation core, c'est retraité des aspects un peu volatiles comme l'énergie et le prix alimentaire. C'est ça que regarde la Banque Centrale Européenne. Hein. C'est vraiment l'inflation core qui est aussi à 5,5%.
Okay.
Retraité des matières volatiles. La BCE a un très faible impact sur les prix du pétrole, par exemple. Ça se joue plus du côté du
Moyen-Orient,
que sur sa politique monétaire. Donc elle regarde vraiment l'inflation, consommation, services, vraiment l'inflation dure, core, pour agir. Elle est aussi toujours à 5,5%. Elle décroît, on a été proche des 10% à un moment donné. Hein, donc elle est vraiment sur la pente descendante. Le pic est largement passé. Elle décroît un peu plus vite qu'anticipé. Les derniers chiffres aussi, les PMI, les chiffres de l'industrie sont un peu moins bons qu'anticipé. Donc beaucoup de facteurs nous font penser que la BCE aura un discours un peu plus modéré sur les futures hausses de taux. Donc,
c'est-à-dire que le PMI, c'est un baromètre qui donne un peu la tendance sur ce qui va se passer dans...
Sur l'activité manufacturière. Et
donc, est-ce que les entreprises ont des carnets de commandes remplis ou pas,
hein. C'est ça. Et ça commence à décroître.
Donc là, c'est plutôt le signal est plutôt négatif en fait.
Ouais. Plutôt négatif au niveau économique.
Ouais.
Et quand la BCE monte les taux, elle a tendance aussi à accroître ce risque, hein, puisque...
Ça rend l'argent plus cher, en fait.
Exactement, elle rend l'argent plus cher. C'est le but, hein, le but de rendre l'argent plus cher, c'est de limiter la consommation, d'inciter les gens à épargner plutôt qu'à consommer ou qu'à emprunter, et donc de limiter la hausse des prix. Hein, c'est le schéma classique d'une banque centrale pour essayer de limiter, faire baisser l'inflation. Mais il y a des contreparties à ça. Les contreparties, c'est un peu de stress économique. Et on entend aussi beaucoup parler de cette fameuse récession qui pourrait arriver. C'est ce que cherchent aussi les banques centrales, à arriver en récession, mais la récession la plus douce possible, pour que l'économie continue à avancer quand même. Mais leur premier but, c'est calmer l'inflation.
Ça paraît fou quand même de se dire que la banque centrale cherche une récession quelque part.
Alors, elle ne pourra jamais vous le dire comme ça. Elle pourra jamais vous dire...
C'est politiquement très incorrect.
Je cherche la récession, mais...
Dans les faits, elle sait qu'elle est obligée de passer par là.
Dans les faits, elle sait qu'elle sera obligée de passer par là. Et elle l'a même dit, la Banque Centrale, enfin Christine Lagarde, hein, l'a dit à plusieurs reprises que s'il fallait passer par là, le rôle de la Banque Centrale Européenne, c'est uniquement l'inflation. La Fed, c'est un petit peu différent. Hein. La Réserve Fédérale Américaine, elle a trois objectifs, inflation, croissance, emploi. Donc là, elle ne peut pas non plus mettre de côté complètement l'aspect récession de l'économie. La Banque Centrale Européenne, elle a un mandat, c'est l'inflation.
Est-ce que ce n'est pas une erreur aussi
d'avoir un seul mandat ?
D'avoir un seul mandat ?
Ça, c'est les grands textes et je pense que c'est pas prêt de changer tant qu'il n'y a pas de coordination budgétaire au sein des pays de la zone euro. C'est très compliqué pour la BCE d'agir sur ce point-là. Hein. Elle peut juste agir sur l'aspect monétaire. On a juste une monnaie commune, mais pas de politique budgétaire commune. Donc, c'est difficile d'avoir des actions sur l'aspect économique. Aspect, ouais.
Et donc, tu vois plutôt un ralentissement de la hausse, voire baisse.
Ouais, c'est vrai que je n'ai pas encore répondu à ta question. Donc, 3, on est à 3,5, on va passer à 3,75. La grande question, c'est est-ce qu'on ira jusqu'à 4 la prochaine réunion du mois de septembre. C'est globalement la seule inconnue qu'on a, à mon sens, qui n'est pas énorme. Ce ne sera pas un choc si on passe de 3,75 à 4. Donc le haut de la fin des hausses de taux devrait se situer là. Donc 3,75 ou 4% en septembre potentiellement. Et après on va passer sur une zone, ils ne vont pas baisser les taux tout de suite. Hein, tant que l'inflation est autour de 5%, ça reste quand même très élevé. Mmh. Par contre ce qu'ils ont fait, ça devrait suffire pour voir la pente de l'inflation continuer à descendre sans avoir à relever davantage les taux d'intérêt. Donc il y aura une phase de stagnation des taux d'intérêt, ce qui est aussi très intéressant pour les investisseurs. Hein. C'est un bon point pour rentrer et le point d'entrée va durer quelques temps. Hein, puisque les taux vont rester à ces niveaux-là, et courant de l'année prochaine, commencer déjà à rebaisser les taux, c'est fort probable.
Et du coup, au vu de ça, c'est quoi les stratégies que toi, là, tu mets en place, ou que tu as mis en place, ou que tu vas mettre en place ? Sans rentrer dans les secrets
Non, bah on peut rentrer chez celui-là, c'est pour rentrer dans les secrets avec plaisir. Une chose qu'il faut savoir, qu'on n'a pas évoqué aussi, c'est quand les taux remontent si fortement, quand les banques centrales remontent les taux si fortement, ça agit sur la partie courte des courbes. Donc ça, on pourra le voir. Hein.
Ouais,
vous le montrer à l'écran. Les courbes de taux, actuellement, elles sont complètement anormales. Une courbe de taux classique, c'est une courbe de taux qui est pentue. Ce qui est logique. Hein. Plus vous avez du temps devant vous, plus vous investissez sur le long terme, plus il y a du risque, plus il y a de l'inconnu, donc plus vous êtes rémunéré.
C'est logique.
C'est logique, c'est classique. Actuellement, les courbes de taux, elles sont inversées. Donc vous avez des rendements supérieurs à court terme qu'à long terme. Pourquoi ? Parce que les banques centrales agissent sur la partie courte, c'est des politiques monétaires, donc c'est sur les taux ultra courts. Donc les taux d'intérêt ultra courts sont montés très fortement.
C'est quoi ultra court ? C'est 3 mois, 1 mois ?
3 mois, 6 mois, interbancaire même, hein, ouais. Vraiment les taux très courts. Le taux de dépôt de la Banque Centrale Européenne, quand je dis 3,5, hein, c'est le taux de dépôt de la Banque Centrale Européenne, donc là c'est vraiment les taux au jour le jour. Mais elle agit jusqu'au, globalement, ce qu'on estime jusqu'au taux à 2 ans à peu près. Voilà. Donc jusqu'à 2 ans, c'est la Banque Centrale qui agit sur ces taux-là. Après, c'est le marché. Donc les taux directeurs sont à 3,5%, donc les taux d'intérêt court terme sont à peu près à ces niveaux-là, plus hein, la fameuse prime de crédit en fonction du risque de l'émetteur. Et après, quand on avance sur la courbe est descendante. Pourquoi ? Parce que les investisseurs pensent que les taux ne seront pas durables à ces niveaux-là et qu'à un moment donné, ils vont devoir rebaisser. Et donc la courbe se repentifiera, reviendra normale, on va dire, une fois que les banques centrales ont renormalisé leur politique monétaire. Elle se raplatira vers le bas. Donc, actuellement, les stratégies à mettre en place, dans l'environnement qui reste quand même incertain, hein, même si on pense que les taux d'intérêt vont plafonner pendant un certain moment, vous êtes mieux rémunéré sur la partie courte que sur la partie longue. Donc, c'est inutile pour le moment d'aller chercher des obligations trop longues en duration, trop longues en maturité. Donc, plutôt, se concentrer sur la partie courte des courbes.
Donc, deux ans, fait. Jusqu'à deux
donc,
ans.
Donc, de 2 à 5 ans.
Okay.
Donc, ce qu'on aime bien faire, contrairement à certaines gestions ou certains types d'instruments, sans les citer, les fonds à échéance.
Les fonds datés.
Les fonds datés, exactement, qui se consacrent sur une maturité. Donc, un fonds daté, par exemple, 2026-2027, ils vont investir 100% du portefeuille autour de cette maturité-là. Vous loquez des rendements, c'est bien. Donc, vous avez un rendement autour de, aujourd'hui, on va dire, entre 4,5% et 5% sur l'investment grade sur ces maturités-là. Le seul bémol que nous on peut voir à ça et la manière de contrer ce bémol, c'est que vous loquez ces rendements là si les taux continuent à monter ou si les primes de risque s'écartent, ce qu'on exclut pas, hein, si on vient rentrer en récession à un moment donné, c'est la partie prime de risque qui pourrait s'écarter, hein, c'est la partie risque qui sera plus mis en contribution. Sur l'année qu'on vient de passer, le marché obligataire il a chuté de 16%, pas parce que les primes de risque se sont écartées, mais parce que les taux d'intérêt sont montés. Donc la prochaine phase, à mon avis, c'est plus la phase risque de taux, c'est la phase risque de spread, des primes de risque. Donc ça là, il faudra la gérer. Donc on préfère échelonner les maturités. Donc pour faire simple, au lieu d'investir tout à 5 ans, on préfère avoir un portefeuille avec 20% de maturité à 1 an, 20% à 2 ans, 20% à 3 ans, faire ça sur 5 ans, donc avoir un portefeuille échelonné, ce qui nous permet deux choses.
C'est du ladder, ça c'est...
Exactement, du ladder, très bon terme, donc ce qu'on appelle, on appelle ça comme ça, les stratégies ladder. Vous avez le même rendement que sur le fond daté, puisque, comme je vous l'ai dit, la courbe, elle descend, elle est inversée, donc ça ne sert à rien d'aller forcément à 5-6 ans, même rendement, voire même peut-être un peu supérieur, parce que les parties courtes sont encore plus hautes. Et vous avez la possibilité tous les ans de replacer des échéances, donc les obligations qui arrivent à échéance, sur des niveaux de taux qui sont soit égaux, soit supérieurs si les taux ont monté, ou supérieurs ou égaux si les primes de risque se sont élargies. Donc c'est d'avoir cette flexibilité dans les investissements qu'on n'a pas sur un fonds daté.
C'est vrai que le fonds daté, c'est très à la mode en ce moment. Mais du coup, ce que tu nous dis, c'est qu'il faut mieux garder la flexibilité. Mais du coup, comment tu la joues, la flexibilité, toi, concrètement? C'est-à-dire que chaque année, tu vas repositionner ton portefeuille
Alors,
voire plus souvent en fait.
C'est ça, moi en tant que gérant obligataire, moi j'achète les obligations en direct, hein, j'achète pas des fonds, des
ETF des fois. Donc tu vas voir, tu l'achètes à Total.
Mais j'achète mes obligations en direct sur le marché à un an, enfin j'achète. Pour construire un portefeuille, globalement, il faut entre 30 et 35 lignes pour diversifier un portefeuille. Donc j'achète 5-6 lignes à un an, 5-6 lignes à deux ans, 5-6 lignes à trois ans pour construire le portefeuille.
À chaque fois des émetteurs différents.
À chaque fois des émetteurs différents, on ne concentre pas les secteurs, enfin, on fait attention à toutes ces règles de gestion, on va dire classiques, hein, pour avoir un portefeuille diversifié. Ça ne sert à rien d'aller au-delà de 35 émetteurs, hein, comme on voit des fois avoir 150 lignes dans un portefeuille obligataire. À mon sens, ça sert pas à grand chose d'être déjà bien diversifié avec 35 et avec des convictions un peu plus fortes et un rendement aussi qui sera supérieur, hein, quand vous concentrez un peu plus. Mais voilà, vous échelonnez vos maturités comme ça sur 5 ans, vous aurez le même rendement, vous serez bien diversifié. Mais en plus de ça, on a cette flexibilité qu'on n'a pas sur un fonds d'AT. Après, pour un investisseur particulier, c'est vrai qu'il n'y a pas, à ma connaissance, de fonds ladder.
Peut-être un produit à créer.
Ouais. Alors, c'est quelque chose qu'on y reviendra peut-être. On est en train de lancer un fonds d'investissement. On est en train justement de prendre ce créneau. Il est en cours de lancement. Et c'est typiquement des stratégies qu'on mettra en place dedans pour justement une clientèle un peu plus retail, hein. Ce qu'on fait chez Spirit AM, on est gérant surtout de mandats discrétionnaires pour des clients ultra high net worth.
Donc des personnes fortunées.
Ce qui est souvent le cas dans la gestion obligataire, et c'est pour ça qu'elle est méconnue aussi du grand public. Hein, ce que j'ai pas dit, quand on achète une obligation, vous ne pouvez pas mettre 1000 euros sur une obligation. 80-90% du marché euro, c'est des coupures de 100 000. Donc, il ne faut pas investir moins de 100 000 euros dans une obligation.
Donc toi, tu as 35 lignes.
Donc, c'est un portefeuille de 3 millions, 3 millions et demi. Donc,
c'est juste sur la partie obligataire.
Juste sur la partie obligataire. Ouais.
Donc ça fait des gros tickets quand même à mettre.
Ouais.
Et du coup, avant de rentrer dans le détail, toi dans une allocation globale, aujourd'hui, je sais pas, quelqu'un qui a 30-35 ans, qui veut développer son patrimoine, déjà, est-ce que c'est un bon bet d'avoir de l'obligation? L'inflation, il l'a, c'est ouais, cadeau.
Là, il n'y a pas le choix.
C'est pas le choix. D'avoir de l'obligation, et si oui, quel pourcentage?
Alors. Un investisseur de quel âge? Ça aussi, toujours
30-35 ans, on va dire.
30-35 ans, comme nous, quoi.
Comme nous.
Voilà,
quelqu'un qui a envie de développer son patrimoine, ouais, et qui est prêt à prendre quand même un petit peu de risque.
Un peu de risque, ouais. Clairement, ça a sa place aujourd'hui plus que jamais, hein, pour un client de 30-35 ans, avec des taux d'intérêt investment grade qui sont à 5%, high yield qui sont à 8%, il y a clairement de la place pour mettre de l'obligataire. Après, la grande question, c'est comment le faire, par quel instrument. Ça, c'est mon biais de gérant. Je suis convaincu que sur la gestion obligataire, la gestion active est quand même plus intéressante que la gestion passive.
Gestion active,
pas,
c'est...
Alors, pas dans le sens du sous-jacent, ouais. On s'entend bien. Je suis totalement pour les ETF obligataires, mais avec une gestion active de l'ETF. On ne peut pas se dire on achète un ETF obligataire investment grade et on le garde 20 ans comme on pourrait le faire avec un S&P. La classe active obligataire, il y a une multitude de sous-classes d'actifs et c'est ça aussi qui est extrêmement intéressant. Là, on a balayé juste, on va dire, deux sous-classes, les obligations d'État et les obligations d'entreprise, investment grade et high yield, on a quand même différencié un petit peu les deux, mais vous avez des obligations qui sont indexées à l'inflation, vous avez des obligations qui ont un coupon flottant, par exemple un coupon qui évolue en fonction des taux d'intérêt, vous avez des obligations qui sont convertibles, vous avez des obligations qui sont émergentes, vous avez un panel d'obligations qui est extrêmement important, et ce qui est extrêmement intéressant pour un gérant obligataire comme moi, contrairement à un gérant action, j'aime bien taper sur les gérants actions, c'est mon côté obligataire, hein. j'ai rien contre eux. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de sous-classes d'actifs obligataires qui sont décorrélées entre elles, dans des périodes normales. Je vous donne un exemple, quand il y a du stress sur les marchés actions, sur les marchés du crédit, les obligations gouvernementales américaines ou allemandes font guise de valeur refuge, mis à part l'année dernière où les taux montaient dans la même période où il n'y avait pas de valeur refuge. C'était une année très spéciale. Maintenant que les taux sont montés, on va revenir sur ce diktat classique, hein, valeur refuge, obligation d'État allemande, obligation d'État américaine. Plus vous êtes long en duration, plus vous allez gagner sur ces obligations-là quand il y a du stress sur les marchés. Et dans ce même environnement, les obligations à yield vont souffrir. Inversement, quand on est dans des périodes beaucoup plus propices au risque, c'est le moment d'aller chercher des rendements sur la partie à yield et de délaisser les obligations d'État. Donc, vous voyez, en fonction du scénario et de la macro du moment, il y a certaines classes d'actifs qui ont plus de valeur que d'autres. Donc c'est pour ça que je privilégie la gestion active. Donc moi, mon rôle, c'est d'aller sélectionner les bonnes sous-classes d'actifs du marché obligataire dans le bon environnement macro. Ça, c'est très difficile à faire pour un client retail. C'est pour ça que je préconise plutôt de gérer à travers un fonds d'investissement avec un gérant qui sait le faire. Après, si le client veut ou un client retail veut le gérer plus en direct, une bonne allocation, c'est d'avoir les deux. Hein, c'est d'avoir une partie sur des obligations d'État. Moi, je préfère toujours américaine. Vous pouvez hedger la devise si vous avez, donc couvrir la devise, hein, si vous n'avez pas envie de prendre de dollars dans vos portefeuilles. Ou si ça ne vous dérange pas, vous pouvez garder du dollar. Mes obligations très longues américaines.
Ça, tu peux l'avoir en ETF, ça ?
ETF, ouais. ETF, iShares, Amundi, tout le monde le fait pour quasiment le même prix. Donc,
ça, quelques points de base.
Ouais, quelques points de base. Ça ne change pas, ça va pas changer votre performance. Donc, ils le font sur la partie très longue. Vous pouvez même aller acheter 10 ans, même du 20 ans, même plus. Donc, ça, c'est la partie, on va dire, couverture. Ça sera très intéressant aussi dans une approche plus patrimoniale de dire, on a 30, 35 ans, on va prendre une partie de risque quand même dans le portefeuille, actions, private equity ou autre. Cette poche-là, en temps normal, et là, on rentre dans des temps qui vont être normaux, ça sera une poche de couverture. Ça, c'est très intéressant. Ça va limiter la volatilité de votre portefeuille. Et pour l'approche plus rendement de la partie obligataire, donc là, on a vu l'approche couverture, mais l'approche rendement, vous pouvez faire un mix entre investment grade et high yield aujourd'hui, plutôt courte duration. Actuellement, je ne dis pas que ça évoluera pas, mais actuellement, hein, comme je vous ai dit, les courbes sont inversées. Donc, ça ne sert à rien d'aller prendre de la duration, de la maturité sur des obligations crédit. Vous allez juste augmenter votre risque d'évolution des prix sans augmenter votre rendement. Donc, plutôt rester court en duration. Des ETF le font aussi. Hein. Les ETF, vous avez des ETF Amundi 1,5 ans, triple B par exemple, EBBB le code de tête, qui joue ces thématiques-là, 1,5 ans sur de l'investment grade, et autour de 4,5-5%, et vous n'avez pas un risque de taux d'intérêt qui est très élevé.
Donc en gros, si je résume, tu verrais une partie longue sur les obligations d'État.
Exact.
Et une partie courte en duration sur du investment grade d'une part et sur du high yield pour aller chercher de la perf. Quoi.
Du rendement, ouais. L'aspect rendement. En fait, l'aspect rendement, l'aspect protection.
Ouais.
En gros, c'est exactement comme ça que je gère mon portefeuille actuellement. C'est pour ça que je préconise ça. Et c'est pour ça que je dis aussi que ça peut évoluer. Mais dans l'environnement macro du moment, et je pense pour les trimestres à venir, c'est une très bonne stratégie d'avoir l'aspect protection avec du très long duration gouvernemental où il y a zéro risque crédit et de l'aspect rendement court terme parce que les courbes sont inversées.
Et on parle souvent tu dis il y a zéro risque crédit, c'est-à-dire que c'est quoi ? Il n'y a pas d'absence de risque.
Ouais.
Concrètement, qu'est-ce qui se passerait si par exemple l'État allemand faisait défaut sur une de ses obligations ? Est-ce que c'est déjà arrivé ?
Non. Pas l'État allemand, c'est déjà arrivé sur la Grèce par exemple, hein, mais là on parle de pays périphériques, l'Argentine a fait défaut, des pays périphériques. Si l'État allemand venait à faire défaut, je donne pas cher de tout le marché en fait, hein, et pas que le marché obligataire. Hein,
c'est un peu la fin du monde en gros.
Ce serait un peu la fin du monde, voilà.
Okay.
Et on a eu ce stress, les marchés se sont un peu stressés sur... il y a quelques mois au niveau de la dette étatique américaine, hein, ce fameux plafond de la dette. Vous savez qu'aux États-Unis, le Sénat et la Chambre votent un plafond de la dette. Ça avait été mis en place pour éviter au gouvernement de s'endetter et de financer tout et n'importe quoi à l'époque. Ce plafond de la dette a été atteint et potentiellement les États-Unis pouvaient être en défaut au mois de juin. Parce qu'ils n'auraient pas pu financer, payer les fonctionnaires, parce qu'ils ne pouvaient pas s'endetter. Bon, ils ont prorogé comme tous les ans, mais le marché s'est fait un peu peur.
Ça arrive chaque année, ça, non ?
Tous les deux ans, à peu près. Mais là, c'était un peu plus tendu que d'habitude. Et on a vu d'ailleurs les CDS. Hein, les CDS, pour les non-initiés, c'est Crédit Default Swap, l'acronyme. C'est pour mesurer justement la prime de risque sur un émetteur ou sur un pays. C'est le prix de la couverture.
C'est une assurance.
C'est comme si vous achetez, c'est comme votre assurance de voiture. Vous payez une prime. Si rien ne se passe, si vous ne cassez pas votre voiture, vous avez payé la prime pour rien. Par contre, si vous cassez votre voiture, ils vous remboursent la voiture. La CDS, c'est exactement la même chose. Vous prenez une assurance sur la dette américaine. Ça ne vous coûte rien du tout parce que la dette américaine a peu de chances de faire défaut, normalement. Donc vous perdez. Par contre, si la dette américaine venait à faire défaut, vous êtes remboursé de votre investissement. Et ces fameux CDS sur la dette américaine, donc ces primes d'assurance, elles ont fortement augmenté dans cette période post-juin. Donc ça coûtait de plus en plus cher de se couvrir. Et c'est un facteur qu'on regarde beaucoup hein, contre un défaut des États-Unis. Parce que à cause de ce plafond de la dette qui n'avait pas été forcément prorogé.
D'ailleurs, c'est intéressant parce que les CDS, il me semble que tu peux les prendre sur des produits que tu ne détiens pas forcément. Ah, tu peux te protéger. Moi, je peux pas m'assurer contre ton accident de voiture. Non. Par contre, le CDS, en fait, théoriquement, tu peux parier sur les défauts de plein d'acteurs ou d'États, d'ailleurs.
Il y a les CDS dans l'aspect couverture et les CDS dans l'aspect spéculation. Donc, vous pouvez avoir le sous-jacent, donc la dette étatique américaine, et acheter le CDS pour vous couvrir si vous avez peur. Mais vous pouvez aussi acheter un CDS sur la dette étatique américaine sans avoir le sous-jacent pour pouvoir la parier sur un défaut.
Et d'ailleurs, la spéculation, c'est une part importante du marché CDS. Des obligations.
Bah, du marché CDS, ça c'est sûr.
Du marché CDS, ouais, c'est sûr. Mais sur l'obligataire au sens large, tu vois beaucoup de spéculation?
Non, pas de spéculation. Spéculation, c'est un mot un peu barbare. Il y a de la gestion, donc effectivement.
Tout le monde est là pour faire de l'argent.
Voilà, tout le monde est là pour faire de l'argent, et c'est pour ça que durant la période des 7 ans de taux négatifs, c'était intéressant quand même le marché obligataire, mais c'était encore une fois, comme je le dis, un marché de gérants actifs. Vous aviez plus de rendement. Donc acheter une obligation à détenir à maturité, ça rapportait plus rien. Par contre, comme je vous l'ai dit, le prix des obligations il fluctue sur le marché. Donc en fait, on pouvait traiter le marché obligataire comme on traite le marché action. Quand vous achetez une action, ce n'est pas pour son dividende, c'est pour l'acheter et la revendre plus cher plus tard. On peut faire la même chose sur le marché obligataire, ne pas l'acheter pour son coupon, qui a été complètement nul, complètement écrasé ces dernières années, mais pour l'acheter, pour la revendre plus cher. Et ça, c'est des choses qui étaient extrêmement intéressantes. On pouvait gagner 4-5% sur le marché obligataire durant les années de taux négatifs en gérant activement comme ça.
Tout en amortissant en plus le choc des actions dans son allocation. Donc en fait, on venait réduire la volatilité naturellement dans une allocation bien diversifiée.
Ouais, effectivement, si vous aviez une poche obligataire, de toute façon, les poches obligataires, normalement, j'aime bien dire normalement parce que l'année dernière, c'était une année qui n'était pas normale, diversifie votre allocation. Quand les taux sont à zéro, c'est vrai que c'est plus compliqué. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce paradigme-là. On ne va pas y revenir de sitôt non plus. Hein. Même quand je dis que la Banque Centrale Européenne et même la Fed rebaissera les taux l'année prochaine, elle le refera, mais ne reviendra pas sur les taux d'intérêt négatifs, à moins d'un cataclysme. Mais ce n'est vraiment pas ce que le marché anticipe. Ce qu'on anticipe, on reviendra sur des taux d'intérêt plus neutres. Le taux d'intérêt neutre, par exemple, aux États-Unis, il est estimé autour de 2,5%, taux d'intérêt directeur. Aujourd'hui, on est à 5%, 5,25%. Ça va aussi monter sûrement demain, mais encore de 25 points de base. Mais on va dire que le taux haut sera à 5,5% aux États-Unis, 5,5% ou 5,75%, et les taux neutres sont à 2,50%. Donc, ça vous laisse juste penser à une chose, passer de 5,5% à 2,5%, il y a 3% encore de baisse de taux à venir dans les prochaines années, très difficile à dire exactement quand, mais acheter aujourd'hui des obligations, c'est-à-dire que les taux ont un potentiel de baisse, c'est extrêmement intéressant. Le point d'entrée aujourd'hui est extrêmement, extrêmement intéressant.
Est-ce que tu vois aussi un afflux des capitaux du coup dans la classe d'actifs?
Oui, ça commence vraiment à arriver. Il y a toujours cet aspect peur de l'inflation qui commence un peu à se dissiper avec les derniers chiffres, et on voit de plus en plus de flux. Sur les dettes très longues en duration, ça reste encore assez contenu les flux, mais sur du crédit de bonne qualité assez court terme, là vraiment on voit revenir pas mal de flux. Ouais.
Il y a un produit qui est assez spécifique à la France, c'est le fonds euro, qui détient aussi des obligations. Ouais. Pourquoi le fonds euro, il paye que 1-1,5% alors que, comme tu as dit, si j'emprunte maintenant, là, je peux faire 5%?
Alors, le fonds euro, maintenant, va payer un peu plus. Hein,
il va payer un petit peu plus, mais on n'est pas non plus sur les rendements du marché, quoi.
Alors, il faudrait regarder, je ne suis pas un spécialiste des fonds euros, étant
gérant. 1,5, tu vois. Ouais.
À mon avis, on peut peut-être être un peu plus haut, mais en tout cas, c'est vrai, les rendements de 5% qu'on a sur de l'investment grade, c'est compliqué. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'à mon sens, hein, les fonds euros détenaient beaucoup d'obligations à l'époque, quand il y avait des rendements. Avec la période de taux négatifs, ils sont quand même bien diversifiés. Donc, il y avait une partie obligataire, mais ils avaient quand même des actions. Ils avaient même, pour certains, de l'immobilier. Hein. Donc, il y avait beaucoup de choses dans les fonds euros. Ils vous donnaient des garanties à 1,5-2% de rendement quand les taux étaient négatifs, ce qui n'est pas normal, on va dire, entre guillemets. Et l'année dernière,
ils payaient de leur poche, ils perdaient de l'argent,
voilà,
concrètement.
Ils tapaient dans les réserves, hein, accumulées durant les années de baisse de taux. Quand vous payez du 3%, quand les taux sont à 4% et font que descendre, votre portefeuille obligataire, comme j'ai dit en préambule, quand les taux baissent, les prix montent, toujours la relation inverse. Donc le portefeuille de ces assureurs montait. Donc ils pouvaient vous payer du 3% et garder encore des réserves. Ils ont tapé un peu dans ces réserves pour payer les années de taux négatifs. Mais l'année dernière, c'était très compliqué quand même, hein, puisque 2022, avec une baisse du marché obligataire de l'ordre de 16%, sur la classe d'actifs, Vous payez rien que 1% quand vous avez un portefeuille sous-jacent, puis le marché action a fait la même chose, hein, il a fait moins 18, moins 20, même plus. Donc quand vous avez un portefeuille global qui perd une vingtaine de pourcents et que vous devez servir 1%, bah, faut aller trouver les réserves. Donc aujourd'hui, ils font peut-être un petit peu l'effet inverse, hein, ils reconstruisent les nouvelles primes qu'ils reçoivent sur des rendements plus importants, donc ils reconstruisent des poches obligataires avec des rendements plus importants, mais ils ne retranscrivent pas tout peut-être pour amortir un peu. Après, je ne suis pas assureur, il faudrait leur demander, mais c'est comme ça que j'imagine. Mais les fonds euros aussi aujourd'hui, ce que j'entends aussi de nos clients, encore une fois, moi je suis vraiment à la gestion, je me focalise sur la gestion, donc il faudrait voir ça plus avec les équipes commerciales, mais ils limitent le pourcentage de votre assurance vie que vous pouvez mettre dans les fonds euros. Ouais, vous pouvez pas mettre 100% dans un fonds euro.
Il faut mettre de l'UC maintenant.
Voilà, il faut mettre de l'UC. C'est là qu'on a fait des choses aussi très intéressantes sur la partie obligataire. On a fait des partenariats avec quelques compagnies d'assurance sur lesquelles on gère des FIC, des fonds internes collectifs. Donc où des clients peuvent compléter leur fonds euro sur une UC avec les stratégies que je vous ai évoquées. Stratégie ladder, stratégie donc ladder combinée avec un peu plus de duration sur la partie américaine. Donc des choses comme ça. Donc une partie rendement pour 75% de la stratégie et une partie tactique qui évoluera. Actuellement, c'est long dette état américaine, mais qui peut évoluer en fonction des scénarios et qu'on gère dans des FIC. Donc c'est un bon complément au fonds euro et on a mis ça en place avec quatre compagnies d'assurance déjà.
D'ailleurs, tu fais bien d'en parler parce que une des questions que beaucoup de gens se posent, c'est comment acheter de l'obligataire. Ouais. Le PEA, il limite. Ouais. La détention aux actions. Alors, il y a un fonds obligataire qui détourne, qui via des produits dérivés un peu l'usage, mais je crois qu'il est minuscule, il a quelques centaines de millions d'AUM. Donc généralement, j'imagine que c'est plutôt via de l'assurance vie et du compte titre qu'on va aller accéder à la classe d'actifs.
Ouais. Ouais, c'est ça. Donc compte titre avec tous les ETF possibles en direct. Il faut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un certain montant pour pouvoir diversifier un portefeuille. Donc ça reste. Pour avoir son portefeuille obligataire, enfin d'obligation en direct, ça reste pour les clients très fortunés.
Mais c'est ce que fait par exemple quelqu'un qui va avoir des centaines de millions d'euros de fortune, lui il va aller acheter directement de l'obligation auprès de
l'émetteur. Moi je vais aller acheter pour lui.
Tu vas l'acheter pour lui, tu vas aller directement traiter avec la trésorerie, enfin ou le département financier de différentes entreprises ou
non, ça se passe. Exactement, ça c'est une excellente question. Donc une obligation, elle cote sur le marché, hein, comme on l'a dit, mais ça reste du gré à gré, de l'OTC.
Ouais.
Contrairement aux actions, vous avez une chambre de compensation, vous voulez acheter une action, il y a un prix, vous l'achetez, ça passe quasi automatiquement au prix qui est affiché à l'écran. Une obligation, c'est un petit peu différent. Ça traite dans une fourchette de prix, ce qu'on appelle le bid-ask. Donc vous avez un prix de vente, un prix d'achat, et au milieu, vous avez un broker, globalement. Et donc ces brokers, ils font l'intermédiaire entre les vendeurs et les acheteurs. Donc moi, si je cherche cette fameuse obligation totale à 5 ans, je vais aller voir plusieurs brokers, leur dire, voilà, je suis acheteur de l'obligation totale à 5 ans à tel prix. Lui, il va dire, est-ce qu'il trouve un vendeur à ce prix-là ou plus cher, moins cher? On va se mettre d'accord sur un prix. Je vais lui dire go ou pas go et on va traiter comme ça. Donc il y a un intermédiaire qui est le broker. Il y a des prix qui sont affichés à l'écran. Mais c'est des prix qui sont assez théoriques. Ça, c'est un aspect qui est très important aussi du marché obligataire, c'est l'aspect liquidité. Une action, ça reste une grosse boîte d'actions, ça reste très liquide. Marché obligataire, en fonction de certaines périodes, peut avoir une liquidité un peu compliquée. Quand personne ne veut vendre, c'est très compliqué d'acheter. Et quand tout le monde veut vendre, c'est très compliqué de vendre. Donc, il y a cet aspect liquidité qui est un élément extrêmement important et qui amplifie aussi les mouvements sur le marché obligataire. On l'a vu sur la crise Covid. Tout le monde voulait vendre, il n'y avait aucun acheteur. À l'écran, vous aviez des obligations qui sont passées de 100 à 80. Ce sont des très bonnes obligations, mais sans transaction. Il n'y a pas de transaction.
C'est juste que les gens baissaient leur prix.
Ça baissait, et personne n'achetait. C'est faux. C'est des prix qui sont factuellement faux,
oui.
Mais c'est le prix qui est retranscrit dans le marché.
Donc c'est quand même un marché d'experts.
C'est un marché d'experts et de spécialistes. Donc le client qui a 100 millions, qui veut mettre 30% de son patrimoine sur les obligations, il peut nous confier 30 millions d'euros et on va lui mettre en place des stratégies obligataires en direct en allant acheter donc ses obligations en direct. Donc, dans son portefeuille, que ce soit compte-titre ou assurance-vie, faire les deux, il aura des obligations en direct.
Et d'ailleurs, il y a un autre aspect, je pense, de votre business qui est géré pour des corpos, gérer leur trésorerie.
Ouais, bien sûr.
C'est aussi une partie importante. Ouais. Aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui font des profits records, mine de rien.
Ouais.
Donc, elles aussi, elles viennent placer cet argent dans des produits obligataires.
Exactement. Donc obligataires. Donc, pour les trésoreries, c'est, il y a différents types de trésoreries. La trésorerie vraiment trésorerie au sens propre, qui doit être liquide à tout moment. Quand je dis liquide, le marché obligataire est quand même assez liquide. Quand je dis liquide, c'est où potentiellement le trésorier me dit dans 3 jours, j'ai besoin de la moitié du portefeuille pour investir, pour acheter un immeuble, pour faire quelque chose. Ça, c'est un mode de gestion plus monétaire qu'obligataire.
Ouais. C'est le marché encore en dessous.
Voilà. Et de la trésorerie un peu plus stable. Et c'est plus sur ça qu'on se focalise sur le marché obligataire. Il y a des boîtes qui ont 50, 100 millions de trésorerie, même plus pour certaines, hein, stables. C'est-à-dire que c'est toujours leur fonds de roulement et ils savent qu'ils ont fait leur bilan sur 5 ans, sur 10 ans. Globalement, il reste toujours au minimum ça en trésorerie. Ben ça, au lieu de le laisser sur un compte à terme ou non rémunéré, on peut le gérer sur le marché obligataire. Et de la même façon, hein, par exemple, en ladder, c'est très intéressant pour ce type de trésorerie parce que ça crée des fenêtres de liquidité, parce que les rendements sont intéressants, parce que la partie courte de la courbe est plus intéressante que la partie longue. Donc on est vraiment dans un environnement très propice à la gestion de trésorerie de cette manière, trésorerie stable.
Et ça coûte combien la gestion justement, combien ça coûte de faire un fonds actif en obligataire?
Alors là, on parle même pas de fonds, on parle de mandat.
Là, c'est un mandat, ouais.
Ouais, on parle de mandat, donc on gère des mandats pour des clients privés ou des trésors, des compagnies.
Et donc comment vous êtes rémunéré là-dessus?
Nous, on est rémunéré, donc on est une société de gestion indépendante, on est rémunéré uniquement à la commission de gestion. Donc un certain pourcentage des actifs pour nous, et on n'a aucune rétrocession de qui que ce soit. Si je venais acheter des fonds, aucune rétrocession de fonds. Si on venait à faire des produits structurés, aucune rétrocession. On est vraiment juste rémunéré à la com de gestion.
Ça marche.
Ultra transparent.
Ça marche.
Ultra transparent et en fonction du montant.
Bien sûr, ça baisse
classique.
Il y a un autre sujet qui est assez important, c'est toute la thématique protection de l'environnement et préservation de notre belle terre, en fait. Il y a ce qu'on appelle les green bonds, c'est les obligations vertes sur le marché qui font régulièrement pas mal de bruit dans la presse. C'est quoi ton avis sur ce sujet?
Alors, pas facile de répondre à ça sans être, comment dire, soit démago, soit anti-environnement, ce que je ne suis absolument pas. On est au début de cette classe d'actifs. Il y a beaucoup de choses qui sont encore floues. Clairement, pour être un green bond, il y a plusieurs méthodologies possibles. Il y a plusieurs facteurs qui sont possibles. Par exemple, faire une partie de son chiffre d'affaires sur des choses qui sont environnement friendly, des choses comme ça. Ça reste assez flou encore, à mon sens. Ça va être aussi compliqué à gérer, puisque si demain les réglementations obligent et imposent que des obligations green, que vont faire certains secteurs? Il y a beaucoup de secteurs qui ne sont pas green et qui doivent se financer aussi, qui doivent se financer pour faire tourner l'économie.
L'obligation Total.
Voilà, Total par exemple, Total, si on reste juste pour l'anecdote, ils ont changé de nom. Hein. Mais non, oui. C'est Total, non, c'est Total Énergie.
Oui. Donc, un peu de vert d'ailleurs.
Ils essayent de se verdir aussi, et c'est en partie à cause de ça. Hein. Mais certains secteurs un peu plus durs, le secteur minier, pétrolier, plutôt exploration, choses comme ça, c'est compliqué à être green là-dessus. Il faut bien que ça se finance aussi. Donc ça sera très dur, à mon sens, à créer une législation pure et dure à obliger les gérants à acheter du pur green. Un autre aspect qui est aussi extrêmement important en ce moment, c'est que si vous comparez un ETF investment grade classique et un ETF investment grade green, il y a une composante qui est très différente, c'est l'aspect duration. La duration, donc la sensibilité au taux d'intérêt de l'ETF green est beaucoup plus longue que celle non green. Donc, dans un environnement où les taux montent ou sont montés comme l'année dernière, si vous déteniez un ETF investment grade normal, vous étiez à moins 16. Si vous déteniez un ETF investment grade green, vous étiez à moins 20. Donc vous aviez une vraie sous-performance de par l'aspect duration. Donc pour le moment, le marché est encore un peu jeune. Les réglementations sont encore un peu matures. Ce sera quelque chose qu'on devra prendre en compte, mais pour le moment, dans la gestion, c'est pas l'aspect principal en termes d'investissement financier. Quoi.
C'est pas le critère numéro un.
Ouais.
Dernière question, on a beaucoup parlé de la gestion que tu fais dans le cadre de ton boulot.
Ouais.
Toi, en tant qu'investisseur, comment t'investis ton patrimoine?
Un peu comme on l'a dit, hein, quand on a pris l'exemple d'un investisseur de 30-35 ans, Donc une partie, donc, je pense qu'il faut blinder la partie cash, liquidité, les livrets classiques aujourd'hui qui repayent, hein, livret A, les LDD, bon, ça va malgré tout assez vite à remplir quand on commence à avoir un peu d'expérience, à monter en âge, 30-35 ans, je pense qu'on peut avoir quelques livrets remplis. Et une fois qu'on a rempli ces livrets, à notre âge, je pense qu'on peut prendre un peu de risque, clairement. Donc avoir une partie en assurance vie pour optimiser aussi un petit peu sa fiscalité, plutôt sur des supports long terme, donc actions. Moi, clairement, c'est de l'ETF. Je vais pas faire du stock picking action. Déjà, c'est pas mon truc. J'ai une vraie conviction que, une vraie conviction et les statistiques qui sont avec moi. Hein. Si on prend aux États-Unis, il y a 85% sur 5 ans, 85% des fonds ne battent pas leur indice. Donc, autant aller pour moi acheter un ETF, je me ferai sûrement des ennemis sur les gérants de fonds, mais autant aller acheter des indices et des ETF. Donc ça sur le côté assurance vie, et aujourd'hui que les taux sont revenus un peu plus intéressants, construire quand même une poche obligataire. Donc comme je vous l'expliquais aussi, la poche obligataire, pour moi qui est gérant, ce serait ultra frustrant d'aller acheter un ETF ou d'aller acheter un fonds obligataire de quelqu'un d'autre qui le fait, alors que j'ai des propres convictions et que je le fais tous les jours, que c'est mon métier. En même temps, rentrer le soir chez moi à 20h et traiter mon portefeuille d'obligations, je sors jamais de mon boulot non plus. Donc là, je pense qu'on a trouvé le juste milieu et qui est extrêmement intéressant pour moi. Comme je vous l'ai dit, je suis en train de lancer mon fonds. En fin d'année, il sera prêt. Donc j'aurai une belle partie aussi de mes propres actifs dans mon propre fonds.
Avec le fameux laddering.
Ouais, avec le fameux laddering et la partie tactique actuellement sur des dettes américaines, mais qui changera sûrement. Hein. Par exemple, l'année dernière, la partie tactique, c'était une poche de couverture. Complètement de couverture. Pour vous donner un exemple et vous montrer que la gestion active, ça fait vraiment du sens, les durations de portefeuille l'année dernière, on les avait mises à zéro. Donc on avait des obligations à 4-5 ans, même un peu plus de maturité, mais avec cette couverture, on avait ramené la duration à zéro. Donc aucun impact de la hausse de taux sur les portefeuilles. Donc ça, c'est des choses que je pourrais faire à travers le fonds aussi. Comme c'est mon métier, autant...
Autant le mettre à profit, ouais.
Voilà, autant mettre à profit et j'investirai une partie aussi de mes économies là-dedans.
Super. Merci Thomas, merci pour ton temps, c'était passionnant.
J'espère que j'ai expliqué assez clairement la classe d'actifs.
Je pense qu'on pourrait faire 10 épisodes sur le sujet.
Ouais, ouais.
Est-ce que tu as un mot de la fin sur les obligations, quelque chose que tu voulais encore donner, un bon conseil qui t'a aidé dans ta carrière d'investisseur professionnel?
Alors, un bon conseil, c'est que le timing est vraiment très bon. Ça, je le répète, c'est vraiment le moment d'y aller. Vous ne prenez pas un énorme risque. Je mets de côté le high yield. Hein. Si vous investissez aujourd'hui sur des durations assez courtes et sur de la bonne qualité crédit, vous êtes rémunéré pour le faire. Donc ça, c'est vraiment, n'hésitez pas à le faire. Et après, en fonction de l'évolution des taux d'intérêt, suivre le marché et ne pas rester cantonné justement sur cette sous-classe d'actifs-là, donc très courte duration, mais faire évoluer son portefeuille en fonction des taux d'intérêt. On aura peut-être l'occasion de rediscuter.
Exactement,
et puis,
dans un an.
Voilà, dans un an pour revoir la stratégie.
Super. Bon, c'est noté. Merci beaucoup, Thomas.
Merci à toi, Mounir.
Merci à tous et je vous dis à très bientôt. Salut.